1357 à 1358, Étienne Marcel, le roi de Paris. Les Marcel de Paris, une famille immensément riche, si riche qu'elle aimerait un jour participer au pouvoir, jouer un rôle politique. Voici le moment venu. Le roi est prisonnier en Angleterre. Il faut, pour diriger les affaires, un homme de terrain, un homme à poigne, quelqu'un qui connaisse bien le commerce, qui soit apprécié des Français et surtout des Parisiens. Pendant que le roi vit son exil forcé et doré, des événements graves vont se produire en France. Après le désastre de Poitiers, le dauphin Charles prend la direction du royaume. C'est un grand jeune homme qu'une maladie infantile a laissé très pâle et la main enflée en permanence de sorte qu'il ne peut saisir les objets qu'avec difficulté. Mais son esprit est plein d'intelligence sensible et de finesse politique. Que faire face à la situation désastreuse dans laquelle il se trouve? En 1356, il décide de convoquer les états généraux de Languedoil. L'ensemble des acteurs de la vie politique, économique des pays du nord de la France, les pays du sud étant de Languedoc, oil et hoc étant les deux façons de dire oui dans chacune des parties nord et sud du royaume. Étienne Marcel, député de la bourgeoisie, prévôt des marchands de Paris, y prend la parole plus souvent qu'à son tour et finit par y imposer ses vues. Si la France va mal, c'est que les conseillers du roi prisonnier Jean sont mauvais. Il faut les remplacer par de bons conseillers nommés par les États généraux. Et quel bon conseiller pourrait par exemple être désigné? Étienne Marcel soi-même, bien sûr. Les États généraux terminés, le dauphin Charles accepte de signer, l'année suivante, une ordonnance préparée par Étienne Marcel, le 3 mars 1357. Cette ordonnance permet au prévôt des marchands et à ses partisans d'accéder au pouvoir exécutif. Ils vont avoir la main mise sur les finances, l'armée et l'administration du royaume. Ils vont pouvoir collecter tous les impôts comme ils l'entendent et en faire l'usage qu'ils veulent. Soudain, voici un troisième acteur sur la scène désertée par Jean le Bon. Il s'agit de son gendre, Charles le Mauvais. Parce qu'il ne cessait de comploter avec les Anglais, il avait été emprisonné à Château-Gaillard sur ordre de son beau-père. Le 9 novembre 1357, il s'évade, ou plutôt on lui ouvre les portes de sa prison sur l'insistance de ses Navarrais et vient s'installer à Paris. Le dauphin est contraint de composer avec lui. L'atmosphère à Paris est délétère. Le dauphin supporte mal la présence du Mauvais et d'Étienne Marcel, qui veulent l'un et l'autre le pouvoir, chacun y allant de son discours auprès des Parisiens désireux avant tout de paix et de stabilité. Étienne Marcel, qui trouve que la situation s'enlise et qui voudrait gouverner seul, va tenter un coup de force. Prétextant que le dauphin est mal conseillé, il convoque 3000 mercenaires en armes qui bloquent le palais du Louvre le 22 février 1358. Il se rend ensuite dans la chambre du dauphin et, sous ses yeux, fait assassiner Jean de Conflans et Robert de Clermont, coupables à ses yeux d'avoir voulu dévaluer la monnaie afin d'assainir les finances. Puis, en signe de protection, il coiffe le dauphin de son bonnet rouge et bleu, les couleurs de Paris. N'est-il pas à nommer, lui, Étienne Marcel, le roi de Paris? De nuit, le dauphin, effrayé par ce qui s'est passé, quitte la capitale et va chercher du secours en province, à la Ferté-Milon. Étienne Marcel comprend que c'est avec une armée que le dauphin Charles, ou plutôt régent de France, titre qu'il se donne à juste titre, va revenir pour reprendre Paris. Le roi de Paris s'allie alors avec les Jacques, paysans de Beauce révoltés contre la stagnation du prix du blé et l'insécurité que font régner dans les campagnes les compagnies, bandes de brigands organisées composées de soldats sans emploi. Mais cette alliance se révèle périlleuse. Étienne Marcel s'en sépare. La jacquerie se poursuit cependant au point que des seigneurs normands viennent demander à Charles le Mauvais d'intervenir. Celui-ci convie alors pour des négociations de paix le commandant de la jacquerie, Guillaume Carle. Mais le Mauvais fidèle à sa réputation de fourbe, s'empare de Karl et le fait décapiter le 10 juin 1358. La répression qui s'abat sur les Jacques est terrible. 15 000 d'entre eux sont massacrés, leurs maisons sont incendiées.
La jacquerie cannibale. La jacquerie, révolte des paysans, a un aspect beaucoup moins misérabiliste qu'on a pu le croire. Ceux qui la composent désirent avant tout travailler en paix. Ils reprochent aux seigneurs de ne pas la leur garantir, car ils sont régulièrement victimes des bandes d'Anglais et des Navarrais qui entourent Paris et tiennent des forteresses où ils se réfugient. Les paysans sont aussi victimes des troupes du dauphin Charles, qui cherchent à reconquérir ces forteresses. Et puis, il a fallu payer l'équipement des chevaliers et des soldats de Poitiers, si honteusement battus. Il faut maintenant payer la rançon de Jean le Bon, qui se dort la pilule à Londres. De tout cela, Jacques Bonhomme, le nom qu'on donne aux paysans, n'est pas content. Et il le fait savoir avec parfois une cruauté qui dépasse l'imagination. La chronique de l'époque rapporte qu'ayant investi un château et tué le seigneur du lieu, les Jacques le dépècent, le mettent à la broche et obligent sa femme à goûter leur rôti.
Étienne Marcel apprend fin juin 1358 que le dauphin, régent de France, non seulement marche sur Paris, mais qu'il va en faire le siège et couper toutes les voies d'approvisionnement. Le 19 juillet, une entrevue pour la paix rassemble le Mauvais, le régent et des représentants d'Étienne Marcel. Le régent promet l'indulgence aux Parisiens affamés à condition qu'ils se rallient à lui, ce qu'ils acceptent. Étienne Marcel sent que le pouvoir va lui échapper. Il appelle au secours les Flamands, qui n'auront pas le temps d'arriver. Étienne Marcel ne dispose alors d'autres ressources que de faire entrer dans Paris la troupe des Navarrais de Charles le Mauvais, roi de Navarre, peu satisfait de l'entrevue de paix, et celle des Anglais stationnés dans des forteresses environnantes. Erreur fatale. Des Anglais qui investissent la capitale, les Parisiens ne le supportent pas. Le 31 juillet 1358 au matin, Étienne Marcel s'en va ouvrir la porte Saint-Denis pour faire entrer de nouvelles troupes, celle de Charles le Mauvais, qui est prêt à prendre le pouvoir. Le Mauvais, qui attend l'ouverture des portes, est certain de monter sur le trône dans les jours qui suivront l'installation de ses soldats dans la capitale. Ainsi, il évincera du même coup Jean le Bon, le prisonnier lointain, et son fils, le régent de France. Étienne Marcel deviendra son bras droit. Mais, près de la porte Saint-Antoine, en ce matin du 31 juillet 1358, un bourgeois parisien, Jean Maillard, plus riche encore qu'Étienne Marcel et parrain de son fils, surgit et lui demande des comptes.
« Étienne, que fais-tu là à cette heure si matinale? Pourquoi t'apprêtes-tu à ouvrir la porte ?»
Sans attendre la réponse qu'il connaît bien, Jean Maillard accuse de traîtrise Étienne Marcel, sort de sous son manteau une hachette de laquelle il frappe à la tête le prévôt des marchands et deux échevins qui l'accompagnaient. La nouvelle de la mort d'Étienne Marcel se répand dans la capitale dont les habitants donnent alors la chasse aux Anglais, aux Navarrais. Deux jours plus tard, le régent de France fait son entrée dans Paris, ville apaisée. Il rassure les Parisiens, décrète l'amnistie. Son pouvoir sort consolidé de cette rude épreuve.
La Bastille, 1370 à 1789. Le 22 avril 1370, à Paris, à l'emplacement de la porte Saint-Antoine où Étienne Marcel a été assassiné, on pose la première pierre d'un château qui va porter le nom de la Bastille Saint-Antoine. Le mot Bastille vient de Bastide en provençal, et Bastide a pour origine bâti. La Bastille est un ouvrage de fortification qui peut avoir l'allure d'un château fort, ou même en être un à part entière. En cette année 1370, afin de prévenir de nouvelles invasions, les fortifications sont donc augmentées de cette Bastille Saint-Antoine, érigée grâce à la cassette personnelle de Charles V. Sa construction est confiée à l'architecte Hugues Aubriot, qui en sera le premier occupant. Accusé d'impiété, il y est emprisonné. La Bastille était un château rectangulaire de 66 mètres sur 30 pour 24 mètres de hauteur. Elle comporte 8 grosses tours reliées entre elles par un chemin de ronde. Ses murs, à la base, font plus de 3 mètres et au sommet, moins de 1 mètre. Le tout est entouré d'un fossé large de 25 mètres et profond de 8 mètres. On y entrepose des armes, des barils de poudre, des piques, des hallebardes, que tous les révolutionnaires s'empressent d'aller réclamer jusqu'au 14 juillet 1789.